Raphaël Guy, Marie Dosé, bonjour.
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 Raphaël Guy, cela fait 7 ans aujourd'hui que Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été assassinés à Kidal. L'enquête de la justice française est toujours en cours. Quels sont les points qui continuent de poser question aujourd'hui?
Alors oui, l'enquête est toujours en cours et 7 ans après les faits, il y a effectivement des questions qui restent totalement irrésolues. La première d'entre elles, c'est les raisons pour lesquelles Ghislaine et Claude ont été enlevés, pourquoi. La deuxième, c'est aussi pourquoi ce qui était à l'origine un enlèvement se transforme en assassinat. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? D'autres questions demeurent irrésolues. Comment les ravisseurs ont-ils pris la fuite? Où se sont-ils cachés? Où sont-ils maintenant? Donc oui, à ce stade de l'information judiciaire, elle est en cours, elle continue et des questions doivent encore trouver réponse.
L'armée française n'avait jusque-là jamais évoqué la présence des forces spéciales ce 2 novembre à Kidal, mais cette année, pour la première fois, un officier français a reconnu qu'elles avaient tenté de poursuivre les ravisseurs. C'est une vraie avancée, selon vous?
Alors, le fait que les forces spéciales étaient à Kidal, ça, on s'en doutait, on avait des éléments dans le dossier pour le penser. Ce qui restait irrésolu, et ce sur quoi l'armée s'était pas exprimée directement, c'était la question de savoir quel rôle avaient joué les forces spéciales à partir du moment où Ghislaine et Claude ont été enlevés jusqu'à la découverte de leur corps. Il y a une avancée très significative qui a eu lieu cette année, avec l'audition d'un militaire qui a été particulièrement courageux, parce que c'est pas tout à fait dans la culture de l'armée que d'aller dans le bureau d'un juge répondre sur ce qui s'est passé dans le cadre d'une opération sur un théâtre de guerre. Et ce militaire a donné un certain nombre de précisions sur la présence des uns et des autres ce moment-là et les choses et la manière dont les choses s'étaient passées. Donc, de ce point de vue-là, oui, il y a eu des avancées.
Sur un autre point du dossier, à la demande de la justice française, l'opérateur téléphonique Orange Mali a fourni au juge d'instruction de nombreuses fadettes, des relevés téléphoniques d'acteurs impliqués dans l'affaire. En revanche, l'opérateur Malitel n'a toujours pas envoyé les données réclamées par le juge d'instruction.
Alors, il s'avère que dans la précipitation, les ravisseurs ont oublié à l'intérieur du pick-up des téléphones qui sont donc des lignes Malitel, ce qui fait que la coopération de cet opérateur de téléphonie est si précieuse dans le cadre de la découverte de la vérité. L'opérateur Malitel a mis beaucoup de temps à répondre aux sollicitations du juge et dernièrement, il a évoqué des difficultés d'ordre technique pour l'extraction et le traitement de ces données. Ce problème technique, grâce à la détermination du juge malien d'une part, du juge français d'autre part, et un peu d'inventivité, est sur le point d'être résolu et pourrait l'être dans les semaines et les mois à venir. Donc on attend beaucoup d'actes d'investigation qui devraient avoir lieu là bientôt.
En quoi ce travail sur les relevés téléphoniques est-il si important?
Ah bah alors il est absolument prépondérant parce qu'il y a un certain nombre de soupçons qui pèsent sur des hommes d'avoir participé à l'enlèvement et à l'assassinat de Ghislaine et Claude. Mais c'est dans les données de téléphonie qu'on trouvera des éléments de confirmation de l'implication des uns et des autres grâce à ces téléphones oubliés dans le pick-up.
Marie Dosé, y a-t-il d'autres sources de blocage, d'autres acteurs qui ne répondent pas ou mal aux sollicitations des enquêteurs?
Les sources de blocage, elles sont étroitement liées à ce type de dossier. On est face à des magistrats-instructeurs parisiens, antiterroristes, qui instruisent sur des faits qui ont été perpétrés à des milliers de kilomètres de là, en zone de guerre. Avec une justice antiterroriste malienne sans moyens, il y a un magistrat qui est motivé, hein. Et pas un peu motivé. Il est très motivé, le juge malien. Et il prend des risques à instruire ce type de dossier et à tenter de coopérer avec la France. Mais c'est très, très, très compliqué. Il manque de moyens humains, il manque de moyens matériels. Et puis, surtout, encore une fois, on est dans une zone où l'insécurité est prégnante. Donc, les blocages, ils viennent de là. Mais ils viennent aussi, et on en a parlé tout à l'heure, d'une difficulté liée à la séparation des pouvoirs. Quand on sait depuis le début de ce dossier que l'armée était présente, ou qu'en tout cas, elle était sur place, sans tout à fait savoir exactement ce qu'ils ont fait, il a fallu attendre 7 ans, vous l'avez dit, pour qu'un militaire parle. Le temps, c'est important. Le blocage lié au secret défense, à un moment donné, il se délie. Le temps, finalement, ça peut devenir un atout dans ce type de dossier. Que l'armée refuse de répondre comme elle a l'habitude de le faire, eh bien, ça doit inciter les journalistes à travailler, ça doit inciter les magistrats instructeurs à ne pas fermer les portes, à en mettre certaines entre parenthèses, le temps que le temps passe justement, pour que la manifestation de la vérité arrive à exploser, même petit à petit. Mais voilà, ce que je veux juste dire, c'est que on est dans le dossier typique de blocage, de situation de blocage, et que ce n'est qu'en étant patient, qu'on arrivera à débloquer certains points. Voilà.
Sedat Anguita est soupçonné d'être l'un des commanditaires de l'assassinat de nos collègues. Or, c'est lui qui a récemment mené côté djihadiste les négociations qui ont abouti en octobre à la libération de 4 otages, libération obtenue en échange de plus de 200 combattants d'ACMI. Maître Dauzé, le fait que Sedat Anguita ait joué un rôle de premier plan dans ces négociations a visiblement choqué au sein de l'association des amis de Claude et Ghislaine.
Moi, j'ai été atterrée hein, à la lecture des deux articles de vos confrères, je crois que c'est Mediapart et Jeune Afrique. Je n'y ai pas cru, dans un premier temps. Il semble que cette information soit pas confirmée officiellement, mais enfin, qu'on ne puisse pas dire que tout cela n'est qu'une hypothèse. Et c'est un scandale à proprement parler, mais inimaginable. De toute façon, tout ce qui est autour de cette opération de la libération de 200 djihadistes est scandaleux. Et je pense très franchement que les magistrats de la galerie antiterroriste sont, à mon avis, hein, à mon humble avis, particulièrement choqués par la façon dont ça s'est passé. C'est encore une fois le problème de la séparation des pouvoirs. Nous, avocats des parties civiles, nous avons fait coter au dossier cette information, parce qu'elle doit appartenir à cette information judiciaire. Le fait que Anguita ait pu... dans une opération de blanchiment, parce que ça s'appelle comme ça, devenir finalement un interlocuteur privilégié ou pas dans le cadre de ces négociations. C'est un scandale. Ce terroriste, un des commanditaires de l'assassinat de Ghislaine et Claude, a pu intervenir dans une opération pareille. C'est un scandale. La difficulté, c'est que l'acter au dossier, c'est dire ça existe, mais comment l'exploiter judiciairement ? Comment exploiter cette information judiciairement ? Le magistrat instructeur, il peut pas aller demander aux autorités diplomatiques, aux autorités françaises, aux autorités politiques la confirmation d'une telle information et c'est étonnant et aboutissant. Donc là encore, on se retrouve, et je reviens au blocage, sur la difficulté majeure dans ce type de dossier qui mêle à la fois la diplomatie, la politique et le pouvoir judiciaire. Mais c'est un scandale, et je vais vous dire très clairement, c'est à vous, journalistes, là-dessus, de creuser et de donner des éléments qu'on pourra exploiter ensuite judiciairement. Mais ça, il ne faut pas le laisser passer. Si c'est véritablement établi, mais je comprends non seulement la colère des parties civiles, mais je comprends et je partage leur rage. Voilà ce que j'ai à dire.
Alors, ni lui, 3-2, ni lui, Sedat Anguita dont on parlait là, ni les membres du commando qui ont enlevé et puis assassiné nos collègues, parmi lesquels le chef présumé, Bayak Bakabo, ne font l'objet d'un mandat d'arrêt international. Comment est-ce que vous l'interprétez ?
Il ne faut pas qu'il fasse, là maintenant, à l'instant T, l'objet d'un mandat d'arrêt international. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, les soupçons sur ces personnes, Anguita et les autres, ont été mis en exergue grâce à la déclassification de certaines notes d'information. Il manque encore des éléments pour aller plus loin. Et il faut des éléments prégnants pour délivrer un mandat international. Pourquoi ? Mandat d'arrêt international veut dire procédure d'extradition. Si jamais, là, par exemple, on délivre un mandat d'arrêt international contre l'un d'eux, avec le peu d'éléments qu'il y a au dossier. Ce sont des éléments importants, mais ce sont, malgré tout encore, des éléments insuffisants. Si on délivre un mandat d'arrêt international maintenant, et qu'on lui notifie à des milliers de kilomètres d'ici, attention, les enquêteurs ne peuvent pas aller l'auditionner, recueillir ses déclarations. Seul le juge d'instruction pourra le faire à l'issue de la procédure d'extradition. Et la procédure d'extradition, elle peut ne pas aboutir justement parce que les éléments auront été insuffisants pour délivrer ce mandat d'arrêt international. Donc ce qu'il faut en fait, mais ça c'est de la procédure, mais c'est important de le comprendre, ce qu'il faut c'est attendre que les indices, que les éléments à charge s'ajoutent, se cumulent et se renforcent dans le cadre d'une information judiciaire pour ensuite délivrer un mandat d'arrêt international et souvent à la toute fin de l'instruction pour être certain. Ou en tout cas quasiment sûr que la procédure d'extradition, si elle était amenée à être déclenchée, pourra aller jusqu'au bout.
Maître Dauzé, certaines pistes ont-elles été écartées depuis le début de l'enquête et a fortiori au cours de l'année écoulée ?
Dans ce type d'affaires, je ne pense pas que des pistes soient définitivement écartées. Certaines sont mises entre parenthèses. Mais chacune
des hypothèses restent en tête des magistrats ou en tout cas des avocats. C'est aussi notre profession et c'est notre métier que de rester vigilant quand peut-être un magistrat va un peu trop vite pour écarter telle ou telle hypothèse. Là, en l'occurrence, par exemple, on a une chronologie qui judiciairement se tient. On a aussi des éléments qui ne collent pas avec cette chronologie judiciaire qui se tient. Et je parle ici de l'heure à laquelle les corps ont été découverts ou de l'heure à laquelle la mort de Claude et Ghislaine a été apprise par certains. Judiciairement, ça se tient. Mais en dehors du judiciaire, il y a des difficultés. Donc ça, il va falloir le résoudre. Petit à petit, on finira par comprendre, on finira par avoir des explications. Et si nous ne parvenons pas à avoir des explications, l'instruction doit se poursuivre. Mais c'est comme ça sur tous les pans de ce dossier. Donc, encore une fois, il ne faut pas non plus aller trop vite. Je sais parfois qu'on a très envie d'aller vérifier tel ou tel soupçon sur tel ou tel personnage. La difficulté, c'est que si on va trop vite dans les investigations, alors qu'il n'y a pas assez d'éléments, on risque là de fermer une porte qu'on n'arrivera plus à ouvrir. Il faut à chaque fois relire chaque procès-verbal du début jusqu'à la fin avec en tête toutes les hypothèses, et ces hypothèses mises entre parenthèses, mais jamais écartées du dossier. Parfois, notre rôle, c'est de dire au juge d'instruction, non, on ne veut pas que cette hypothèse soit écartée du dossier. Voilà.
Marie Dauzé, une dernière question. Certains acteurs, vous en avez un petit peu parlé, nous questionnent, nous journalistes, sur les raisons qui nous poussent à continuer à travailler sur ce double assassinat. Que recherchez-vous, hein, nous demande-t-il un peu en substance. Marie Dauzé, que leur répondriez-vous? Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire que des journalistes continuent à enquêter sur cette affaire?
Karachi, Boulin, Copernic, vous imaginez les années là? Mais les années, ça n'est pas seulement un risque de dépérissement des preuves. C'est aussi dans ce type de dossier des témoins qui ont moins peur de parler, des langues qui se délient, des documents qui finalement vont être déclassifiés. Voilà, moi je reprends sur la conversation téléphonique. Cette conversation téléphonique qui existe ou pas, qui a fait l'objet ou pas d'un secret défense, avec une contradiction entre les déclarations de François Hollande et celles du directeur de la DGSE. Bon, est-ce qu'elle existe cette écoute, est-ce qu'elle existe ou pas? Là, en l'occurrence, dans le dossier judiciaire, non, elle n'existe plus. La porte n'est pas fermée, c'est entre parenthèses. Moi, je l'ai en tête. Et peut-être que dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, eh bien, on retrouvera des informations qui viennent définitivement infirmer cette hypothèse ou définitivement confirmer le fait que cette écoute existait. Voilà. Ce que je veux juste dire, c'est que il ne faut rien lâcher judiciairement, continuer à instruire et journalistiquement, continuer à enquêter. Chacun à sa place. C'est extrêmement important, mais chacun à sa place. La manifestation de la vérité, justement parce qu'on est dans un mélange des registres et des genres, diplomatie, j'en reviens aux 200 djihadistes libérés, et j'en reviens à Guita parce que je suis particulièrement scandalisée sur tout ça, mais diplomatie, politique, autorité judiciaire, séparation certes, mais c'est aussi vous qui... non pas avec des pouvoirs d'investigation supérieurs à celui du magistrat instructeur, mais qui pouvait enquêter là où le magistrat instructeur ne peut pas enquêter. Et on a besoin de ça, quoi. Nous avons besoin de ça. Donc je pense que le juge travaille. Nous, les avocats, on est là pour l'obliger parfois à travailler sur certaines choses qu'il souhaiterait voir mis entre parenthèses. Et vous, nous souhaitons que vous continuez à nourrir ce dossier dans des registres où la justice ne peut pas aller, parce qu'il y a séparation des pouvoirs. L'écueil à éviter vraiment, c'est de tomber dans le piège du procès de la procédure, parce que là on s'enlise en fait. C'est-à-dire qu'il faut toujours avancer, il faut toujours investiguer judiciairement et vous journalistiquement. Mais il y a des dossiers qui tournent en rond, et qui s'enlisent parce qu'on ne fait plus que le procès de la procédure. Et du coup, on n'avance plus. Et on perd un temps précieux. Et finalement, on risque aussi, à force de mettre à l'épreuve ce qui est déjà acté au dossier, de fabriquer des contre-vérités. Ça, c'est un écueil à éviter. Mais sinon, il faut continuer comme ça. Très franchement, pour être l'avocat de certains dossiers à la galerie antiterroriste, celui-ci, on ne peut pas dire qu'il n'avance pas. Hein. Vraiment.
Parfait. Très bien. Marie Dosé, Raphaël Guy, merci.